Chers frères et sœurs, il est de coutume de dire que cet épisode biblique nous explique que la vie est une affaire de complémentarité. Il faut des personnes qui agissent et des personnes qui réfléchissent. Dans l'Église, il faut qu'il y ait des personnes dans le service, dans la diaconie, c'est d'ailleurs le mot grec utilisé dans ce passage biblique. Et il faut qu'il y ait des personnes qui prient. Il est coutume de dire que nous avons besoin de ces complémentarités pour que le monde fonctionne bien. C'est un peu comme dans le banquet de Platon, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui se réunissent pour retrouver l'unité originelle. Comme si le monde devait toujours se diviser en deux. Comme s'il fallait nécessairement, pour que le monde soit vraiment le monde, des riches et des pauvres, des exploiteurs et des exploités. Comme s'il fallait qu'il y ait toujours des tyrans et des soumis. Comme s'il fallait qu'il y ait des gens intelligents et des gens manuels. Comme s'il fallait que le monde se divise toujours en deux, ceux qui ont un flingue chargé et ceux qui creusent. Pour la référence culturelle, je vous donnerai la solution tout à l'heure. C'est avec ce genre de considération qu'on crée des classes sociales, qu'on crée des gens différenciés au sein de l'humanité, qu'on crée des gens du dedans et des gens du dehors. Et c'est comme cela qu'on crée des conventions, qu'on crée des rôles qu'on fait jouer aux uns et aux autres pour faire fonctionner le grand théâtre de la vie. Et c'est ainsi qu'on crée le musulman de service, le prolétaire de service, l'homosexuel de service, la blonde de service, le croyant de service, le patron de service, le belge de service, etc. C'est comme cela qu'on crée une société, une communauté où chacun a sa place, chacun a sa fonction pour assurer le grand équilibre. Il est de coutume de fonder une société de la complémentarité sur ce texte qui est censé nous expliquer la juste répartition des tâches entre différentes catégories de personnes. Le seul petit problème, c'est que Jésus, dans ce texte, dit qu'il y a une des deux personnes qui a choisi la bonne part, qui a choisi la bonne place. Il ne dit pas qu'il est heureux que chacun soit à sa place pour que le monde tourne bien. Il dit qu'il y en a une des deux qui a choisi la bonne place. C'est la raison pour laquelle certains pensent que la religion devrait se limiter à se tenir au pied du Christ, à écouter la parole de Dieu, à prier, et certainement pas à s'occuper de diaconie, et encore moins à s'occuper de questions sociales. Mais le principe de réalité pose qu'on ne peut pas se passer des tâches ménagères qui sont loin d'être sans noblesse. Le principe de réalité pose qu'on ne peut pas passer son temps en prière sans s'y abîmer au sens premier du terme. Et même les moines qui ont vu dans ce passage biblique la raison de leur vocation d'une vie entièrement consacrée à la prière, se sont bien rendus compte qu'on ne pouvait pas indéfiniment négliger la question du service. Alors, pour faire bonne figure, on trouve une parade. Les théologiens trouvent toujours des parades. On trouve une parade en disant que nous sommes tous Marthe et Marie, et qu'alternativement, nous sommes Marthe ou Marie, selon les besoins du moment, selon les circonstances. La complémentarité ne serait pas au sein du groupe, mais en chacun de nous. Nous serions tous un peu Marthe et un peu Marie. C'est ce que propose Maître Eckhart, par exemple, dans son sermon 86. Il voit dans cet épisode une mise en récit de deux étapes de la vie. La première étape, c'est l'apprentissage. Et c'est Marie qui est la figure de cet apprentissage. Cet apprentissage est indispensable pour pouvoir ensuite se mettre au travail, comme le fait Marthe, figure de la deuxième étape. Autrement dit, l'accomplissement de la vie chrétienne serait effectivement le service, comme Marthe l'illustre de façon exemplaire. Mais au cas là, il faudrait se former, bien évidemment. Et donc, la vie de prière, la vie d'étude serait destinée à se préparer à la vie active. Marie, dans ces conditions, aura pris la bonne place compte tenu de sa situation. Marie est probablement la sœur cadette. Elle avait donc encore besoin d'apprendre son métier pour être ensuite dans la vie active. Plus tard, elle pourra être comme Marthe, sa sœur aînée. Elle pourra tenir la maison. Elle pourra se mettre au service. Elle pourra accueillir le maître avec un grand savoir-faire. Autrement dit, il y a un temps pour apprendre et un temps pour agir. Ce serait le principe de la progression personnelle. Ce serait aller dans le sens du progrès. Mais dans ce cas, quel serait le progrès au juste? De se retrouver à la cuisine? C'est cela le progrès pour Marie? Le progrès, ce serait d'être assez éduqué pour tenir une maison, gérer les fourneaux et tout briquer formidablement? C'est ça le progrès qui est espéré pour Marie? Le progrès, ce serait d'être bien éduqué pour devenir une bonne maîtresse de maison? Vous croyez vraiment que c'est ça la perspective de l'Évangile? Devenir une femme au foyer? La belle affaire. C'est malheureusement ce qu'on fait le plus souvent de l'Évangile. Un argument pour justifier notre morale, pour justifier la place de chacun et pour justifier les équilibres que nous avons formés jusque-là. Des siècles de christianisme, réforme protestante incluse, qui ont fait et qui font encore de l'Évangile un moyen de maintenir un ordre des choses qui n'a pourtant rien d'évangélique. Et je plaide coupable avec les autres, parce que ce type de lecture de la Bible, j'en suis tout à fait capable avec vous. Heureusement, il y a parfois des personnes qui nous ouvrent les yeux et qui nous font découvrir l'Évangile de Jésus-Christ sous ce que des siècles de christianisme ont fait de l'Évangile. Et récemment, une femme catholique, Christine Pedotti, a publié un livre dans lequel elle relit des passages de l'Évangile avec un regard non clérical et non masculin. Et c'est à elle que je dois d'avoir réalisé qu'il y a une évidence dans ce passage biblique qui ne nous saute plus beaucoup aux yeux alors que c'est simple comme l'Évangile. À Marthe, qui se plaint que sa sœur ne l'aide pas en cuisine, à Marthe, qui essaie de culpabiliser son monde parce qu'elle est seule en cuisine, Jésus répond à Marthe que la place de Marie n'est pas en cuisine. La place de Marie n'est pas en cuisine, non pas en raison du fait qu'elle ne saurait pas comment s'y prendre pour être en cuisine, mais en raison du fait que la place des femmes n'est pas en cuisine. Oui, c'est ça. La réponse de Jésus n'est pas uniquement circonstancielle. La réponse de Jésus est que les femmes ne sont pas faites pour la cuisine. Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas parce que les femmes se marient en blanc qu'elles sont coordonnées à l'électroménager et qu'elles doivent être en cuisine. Jésus dit que leur vocation naturelle n'est pas d'être en cuisine. les femmes ne sont pas condamnées à être à la cuisine parce qu'elles ne sont pas bonnes qu'à cela. Faisons un petit saut culturel pour nous mettre dans le contexte de la société israélite où Jésus s'exprime. Nous n'avons même pas besoin d'imaginer quelles étaient les conditions féminines à l'époque pour entendre le caractère profondément subversif des paroles de Jésus. Il suffit de se souvenir qu'aujourd'hui encore, les femmes sont interdites d'études de la Torah et du Talmud par les rabbins du consistoire. Au prétexte que les femmes sont plus intelligentes que les hommes, je cite les rabbins, elles n'ont pas le droit d'étudier. Et par conséquent, elles ne peuvent pas devenir rabbins. C'est dans le judaïsme libéral, non reconnu par le judaïsme du consistoire, que les femmes peuvent étudier et qu'elles peuvent devenir rabbins. Dans cet épisode biblique, Marie est manifestement dans l'attitude du disciple qui profite de l'enseignement du maître. Et voilà qui est tout à fait subversif. Ce qu'elle fait, en principe, ça ne se fait pas. Les femmes, en principe, sont à la cuisine, pas en train d'étudier la Torah. Et que Jésus déclare ouvertement que c'est la bonne place pour une femme est on ne peut plus subversif. Qu'au premier siècle de notre ère, Jésus dise que la condition de la femme n'est pas d'être assignée aux tâches ménagères est proprement subversif. Quand on songe au contenu des manuels d'éducation pour jeunes femmes, encore publiés au milieu du XXe siècle, je ne sais pas si vous avez vu ces horreurs, on se prend à frémir. Jésus dit que les femmes ont le droit d'être disciples. Jésus dit que les femmes ne sont pas tenues d'être confinées à la cuisine, synecdoche pour toutes les tâches ménagères. Jésus ne fait pas que relativiser la position de Marthe. Il la disqualifie en tant que norme, une norme qui devrait être imposée à toutes. Jésus réduit la bonne place pour une femme, ce serait là où Marthe s'est elle-même condamnée, et où elle veut condamner sa sœur également. Ce que Jésus fait, c'est d'engager un processus de libération aussi bien de Marthe que de toutes les femmes à vrai dire. Marthe qui est comme aliénée à sa condition féminine. Marthe est comme aliénée parce qu'elle s'est elle-même condamnée à tenir ce rôle. Personne ne l'y oblige, mais les conventions sont tellement fortes qu'elle s'est soumise à cet ordre des choses et elle veut le transmettre à sa sœur cadette. Jésus entend libérer Marthe de cette aliénation qui la condamne à un rôle social aussi défini que définitif. Dire qu'en France, il aurait quand même fallu attendre le XXIe siècle pour que ce bout d'évangile s'incarne, qu'on y voit un peu plus clair, et encore, tous les prédicateurs ne seraient pas d'accord pour dire cela de ce passage d'évangile. Aujourd'hui encore, on continue à faire de ce texte un texte absolument conventionnel, coercitif, qui dit que chacun doit être à sa place et les vaches seront bien gardées. Alors il serait peut-être précieux que nous n'attendions pas 20 autres siècles pour tirer toutes les conséquences de ce passage biblique, pour tirer toutes les conclusions qui s'imposent. Non seulement prenons immédiatement nos responsabilités en lisant la Bible sans nos verres correcteurs, qui affadissent le sens des textes bibliques, mais prenons aussi toute la démesure de cet enseignement proposé par cet épisode biblique. Et ne laissons pas aux seules femmes le soin de profiter de l'Évangile. Messieurs, prenons nous aussi notre part de responsabilité et notre part d'évangile. En effet, si ce texte bouleverse l'ordre social qui absorbe les femmes, il ne doit pas être seulement limité à la condition féminine. La libération doit être universelle. Cet évangile proclame que nul ne devrait jamais être assigné à une posture, à une fonction, à une tâche. Sans quoi, on crée un ordre social qui oblige tout le monde à tenir un rôle alors que cela ne lui convient pas forcément. Utiliser ce texte biblique pour maintenir un ordre social, c'est revenir au Moyen-Âge, à l'époque où il existait des États, la noblesse, le tiers-État. On naissait noble, alors on mourait noble. On naissait dans le tiers-État, alors on mourait dans le tiers-État. Souvenons-nous à quel point quelqu'un comme Jean Calvin a pu être subversif et casser cet ordre des choses, casser cet ordre social par cette machine de guerre terrible que fut la double prédestination, qui disait que notre dignité ne dépendait pas de notre naissance ou du statut social de nos parents. Ce texte biblique nous invite à cesser de créer des légions de personnes frustrées de ne pas pouvoir exercer leur talent, de ne pas pouvoir aller dans le sens de leur désir, de ne pas pouvoir intégrer la notion de plaisir dans leur vie quotidienne. Alors, pensons à notre actualité une fois de plus et songeons à ce que peut bien signifier des revendications liées au pouvoir d'achat. Cela signifie que si ces revendications liées au pouvoir d'achat sont satisfaites par des hausses de salaire, par la baisse de taxes, eh bien les personnes seront les mêmes avant et après négociation. Au fond, les personnes n'auront pas changé. Elles n'auront pas changé de statut. Elles n'auront pas changé de dignité. Elles n'auront pas changé de vocation. Le regard porté sur ces personnes n'aura pas changé non plus. Songeons à ce que signifient toutes ces négociations, tous ces accords qui jouent sur les chiffres, qui modulent les charges, qui accordent quelques aides financières supplémentaires. Elles signifient que l'argent est ce qui détermine notre vie. Elle signifie que c'est l'argent qui conditionne notre vie. Et pour le dire avec quelques économistes, tout cela n'est qu'aliénation. Tout cela n'est qu'un moyen de maintenir les choses en l'état, en faisant en sorte que personne ne s'intéresse à l'essentiel et que tout le monde continue à s'occuper du superflu. Et que tout le monde reste absorbé par les tâches quotidiennes. Ces revendications financières sont le signe d'une profonde aliénation qu'il faudrait pourtant neutraliser. Ce que l'Évangile proclame ici, c'est que nul n'est soumis à un ordre des choses qui le contraindrait à une posture sociale. Nul n'est dépendant d'un ordre des choses qui l'obligerait à être bon qu'à des tâches subalternes. Et c'est là qu'une réelle résurrection est nécessaire. Une résurrection qui consiste à relever l'ambition de ceux qui n'ont que la question financière à l'esprit. Voyez comme cet évangile ne met pas la question matérielle de côté. Il la relativise. Voyez comme cet évangile ne dit pas que la question matérielle est indifférente. Cet évangile remet simplement chaque chose à sa juste place. Relever l'ambition de ceux qui n'ont que la question financière à l'esprit, ce qui les condamne à demeurer dépendants des fluctuations économiques, sans la moindre indépendance possible. À Marie, qui se pensait lié intrinsèquement à Marthe, qui se pensait lié intrinsèquement à la cuisine, correspondent des centaines de milliers de personnes qui se pensent intrinsèquement liées à l'emploi qu'elles occupent actuellement, au lieu qu'elles habitent actuellement, depuis des générations, peut-être parfois, et des personnes qui se sentent intrinsèquement liées au statut social qu'elles occupent actuellement. Ce passage de l'Évangile déclare que nous valons bien plus que ce à quoi nous sommes aliénés. Nous sommes capables de bien plus que ce qu'on dit de nous. Nous sommes capables de bien plus que ce qu'on nous dit de faire ou ce que nous infligeons nous-mêmes. Et c'est cette liberté-là qu'il faut revendiquer. C'est à cette liberté-là que ce texte nous invite. Non pas se contenter de mesures à la marge, non pas se contenter de bouts de sparadrap, non pas se contenter de pouvoir réussir nos fins de mois. Nous sommes capables de bien plus que cela. C'est la liberté de pouvoir transcender les systèmes de classe, les réseaux d'influence, les cercles de copinage. C'est la liberté de pouvoir transfigurer l'image de soi qu'il faut revendiquer. Pour cela, il faut entendre l'évangile de Jésus-Christ, qui récuse le fait qu'on soit condamné à reproduire les schémas classiques, qui récuse qu'on soit condamné à n'être bon qu'à demeurer dans notre état initial. C'est la liberté de pouvoir devenir disciple. Autrement dit, de pouvoir apprendre un nouveau métier, d'acquérir de nouvelles compétences, de découvrir de nouveaux centres d'intérêt, d'avoir de nouveaux rêves, de hisser notre niveau d'espérance. Voilà ce qu'il faut revendiquer. Non pas simplement avoir un compte en banque qui nous permet de tenir jusqu'à la fin du mois, mais de pouvoir avoir une vie dont on est fier. Avoir une vie qui nous permet de faire valoir nos talents. Avoir une vie qui représente véritablement quelque chose. Avoir une vie qui a du sens. Avoir une vie où nous sommes non seulement disciples, où nous sommes non seulement acteurs, mais une vie où il est possible d'avoir cette charge symbolique qui fait de nous un être humain responsable. Ne pas être en permanence dépendant des aides que nous recevons. Ne pas être en permanence dépendant d'un patron. Ne pas être en permanence dépendant d'un leader spirituel. La liberté de pouvoir devenir disciple, c'est la liberté d'être libre, véritablement libre, de pouvoir exercer sa propre faculté de jugement. La liberté de pouvoir mener sa vie. La liberté de pouvoir faire des choix personnels. Et cela demande toute l'éducation que Marie est en train de recevoir. On ne peut pas se contenter d'être simplement assigné aux tâches ménagères. C'est la liberté de pouvoir exercer ses responsabilités qu'il faut revendiquer. Amen.